Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Bienvenue au Grand Floor Café. Ce soir, on va parler de 6 livres qui sont en vente au Concept Store de Grand Contrôle. 6 livres très différents les uns des autres. On va commencer par un livre de 2006, néerlandais, publié en 2006 en Allemagne, traduit en français en 2007 chez Noir sur Blanc. C'est un ouvrage collectif qui a été réalisé sous la supervision de Katharina Rabe et de Monika Schneiderman. C'est le genre d'aventure un peu folle que l'on adore ici. 15 textes, 15 auteurs, 15 photographes pour plonger dans les confins abandonnés de l'Europe, que ces confins soient réels ou métaphoriques. Alors on va trouver ainsi Vardo, le village le plus à l'est de la Norvège, tout près de la frontière russe. On va trouver Virbalis en Lituanie, qui a été jusqu'en 1914 la gare monstrueuse qui marquait la frontière russo-prussienne et où les trains en fait changeaient de dimension de voie. Donc un complexe assez extraordinaire qui, bien entendu, a disparu à partir de 1914. On va trouver Glazin Elaine, qui est un théâtre en plein air, théâtre amateur, à la pointe sud-ouest de l'Irlande, juste au-dessus des falaises. On va trouver la côte anglaise du Suffolk, qui disparaît peu à peu dans la mer du Nord. Broustourie en Ukraine, en pleine Transcarpathie, à l'intersection quasi parfaite de 4 pays désormais, l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie et la Pologne. On va trouver Adakale, qui est une île qui a la particularité d'avoir été engloutie dans le lac de barrage des Portes de Fer sur le Danube. On va trouver Bolikwaime, les terres désolées, quasiment désertiques de l'Algarve portugais. On va trouver Corleone en Sicile, qui n'est pas seulement le nom d'une célèbre famille mafieuse, mais qui est aussi une ville à une trentaine de kilomètres au sud de Palerme. Et on s'y rend après les tentatives de réforme agraire. On va trouver Döllersheim en Autriche, qui fut le plus grand chantier de la Wehrmacht. On va trouver Kapustin Yar en Russie, qui est un village assez anodin, si ce n'est qu'il est quasiment à l'endroit où se trouvait la capitale de la Horde d'Or, à une époque où la Russie était à peine plus qu'un duché au milieu d'un pays totalement dominé par les Tatars et les Mongols. On va trouver Hohenlichen, qui fut un sanatorium nazi. On va trouver le Tirana en Albanie, Raza en Croatie, Prohradec en Slovaquie. Et enfin, Amsterdam et ses ports qui ont été abandonnés et reconquis sur la mer. Alors ces 15 briques de poésie et d'étrangeté, c'est vraiment un livre assez exceptionnel. Bon, les photographies sont magnifiques. Les deux responsables du projet ont expliqué, dans une préface qui en elle-même est captivante, ce qu'elles avaient en tête. Et donc je vous le lis. C'est au cours d'une promenade dans le Scheunenviertel, un quartier berlinois dont la disparition ne date pas d'aujourd'hui, que Monika Schneiderman m'a confié au début du mois de mai 2004 son désir de consacrer un livre aux lieux ultimes et perdus d'Europe. Des endroits où quelque chose s'achève irrévocablement, se transforme au point d'en être méconnaissable ou tombe purement et simplement en ruine. Un livre qui constituerait un atlas, au sens géographique mais aussi lexical du terme. Un compendium des lieux, des régions, des espaces, que l'on pourrait qualifier de « derniers de leurs espèces », arpentés et racontés par des écrivains et des artistes. Il ne s'agit évidemment pas de dresser un inventaire exhaustif d'une Europe en voie d'anéantissement. Cet ouvrage revendique une exploration subjective et un choix de lieu qui n'a rien de systématique. Tous les pays ne sont pas pris en compte, et c'est délibérément que nous attarderons sur les franges extrêmes du continent. Car c'est sur ces marges, là où les côtes s'effritent dans la mer, où les habitants qui ne peuvent plus vivre de la pêche désertent les villages, où les gens regardent les complexes hôteliers auxquels on a sacrifié les vergers de leurs enfances, c'est là que se révèle avec le plus de force ce qui unit tous ces lieux, tous ces paysages d'extinction. La collaboration entre la violence de l'homme et celle de la nature. Voilà. Donc les 15 textes mériteraient bien entendu une lecture d'extrait. Je vais vous en lire une seule qui est assez étonnant, qui parle donc de ce théâtre en plein air, au bord des falaises en Irlande. Des rorquals bleus, 5, 7, à Baltimore et dans d'autres villages côtiers de la Roaring Water Bay et de la Dunmanus Bay, on parlait même d'une bonne douzaine de baleines bleues qui, coiffées du jet d'eau de leur évent, passaient devant les falaises noires, hautes comme des tours, pour se diriger vers le large, vers l'Atlantique. Des nuées de pétrels les suivaient, écrivant dans le ciel l'itinéraire d'une procession marine écumante. Albatros, goéland argenté, fulmar boréal. Et voilà qu'un cotre surchargé, rempli de pores engraissés, a heurté une baleine en pleine vitesse. Une voie d'eau s'est ouverte. Il a sombré. La mer s'est teintée de rouge. Les marins nageaient pour sauver leur peau dans un déferlement sanglant. Des paquets de mer ont rejeté des cadavres de porcs contre les rochers. Épave rouge clair sur une côte sombre. Existe-t-il un public qui ne se détournerait pas immédiatement des tragédies ou comédies, des concerts, opéras ou allocutions que leur proposerait n'importe quelle scène, si à moins de 100 mètres de la fosse d'orchestre ou d'un rideau de scène agité par le vent, l'océan Atlantique mugissait. si pendant la représentation du dernier mouvement d'une symphonie, des rorquals bleus et des naufragés nageaient là-bas au-delà de la ligne de ressac à la rencontre de leur destin. La scène dont je vous parle ici est située bien au-dessus des écueils du littoral atlantique de l'Irlande du Sud, en lisière d'une de ces innombrables routes bordées de murs de pierre, d'ajoncs et de bosquets de fuchsia, qui entre les phares de Galehead et le cap du sud-ouest de l'Irlande, le Misenhead, se perdent dans des criques profondément échancrées et des chaînes de collines rocheuses. Une scène si proche du déferlement des flots que les acteurs, chanteurs ou poètes qui s'y produisaient devaient parfois élever la voix pour couvrir le chant de la mer ou tout simplement crier plus fort qu'elle. Mon ami Himon de Skibérin, qui m'a aussi appris à ancrer en toute sécurité une barque entre les récifs, à poser des casiers à homards et à en libérer sans se blesser les roussettes hargneuses qui s'y font prendre, mon ami Himon m'a conduit par une journée de février tempétueuse jusqu'à cette scène, à des kilomètres de toute habitation. Le carrefour près duquel elle se trouve s'appelle en gaélique d'Irlande méridionale Glazin Alain, ce qui veut dire belle pâture. Voilà, c'est un texte de Christophe Ransmer, et Christophe Ransmer qui a la particularité d'être le plus marin de tous les écrivains autrichiens. Donc on ne s'attend pas nécessairement à rencontrer en Autriche des écrivains qui sont capables de parler d'exploration maritime du pôle Nord, d'imaginer des transformations de créatures marines en êtres humains. C'est un très très bel écrivain qui est tout à fait représentatif de ce volume, donc Last and Lost, aux éditions Noir sur Blanc, en vente chez Ground Control.
Ground Control ?
Ground Control !
Libre, libre.
Libre et curieux ?
Alors le deuxième livre ce soir est totalement différent, pas du tout le même paysage, c'est un autre genre de confins dont on parle. C'est Corps à l'écart, qui est un livre de 2011, d'Elisabetta Bucciarelli, paru en français chez Asphalt. Corps à l'écart se passe en Lombardie, où en 2011, à ciel ouvert, on a une gigantesque décharge qui rassemble en un seul lieu, intense, une véritable nouvelle terra incognita potentielle d'une société qui est en crise de nerfs permanente. Il y a trois réalités qui y cherchent encore et toujours l'enfouissement. La décharge, évidemment, il y a d'abord le lieu de l'écume de la consommation tous azimuts, de l'obsolescence programmée. Ensuite, elle incarne le business de la déchetterie, sa forme légale, qui est déjà très rémunératrice, mais aussi sa forme illégale, l'élimination à bon compte de ce qui demanderait un traitement spécifique onéreux. On peut songer d'ailleurs au portrait implacable de l'investissement des mafias dans le domaine qu'en dresse Roberto Saviano dans son excellent Gomorra. La décharge, enfin, est le refuge d'une communauté désemparée, hasardeuse, de laissée pour compte, qui, dans ce lieu qui n'est pas fait pour la vie, évidemment, s'y invente un semblant de vie précaire, libre, bricolé entre récupération, revente. Ça évoque les spectres atroces du Raphaël Dernier Jour de Gregory MacDonald, un livre terrible que je recommande seulement à ceux qui ont le cœur bien trempé. Mais heureusement, ces spectres atroces sont tempérés par une solidarité du bidonville qui fait penser à celle magnifiquement mise en scène par Eric Mace-Williamson, particulièrement dans son Bienvenue à Auckland. Alors sur cette scène, qui est sinistre, qui est blafarde, mais qui est pourtant illuminée de petites ferveurs par un gamin en rupture de banc, un fuyard irakien, un réparateur africain extrêmement inventif, se produit dans cette décharge un incendie criminel qui va servir de révélateur à tout un tas de choses. Et ces choses vont être traquées par un jeune pompier italien, subtil, bienveillant et pudique. C'est une histoire qui est simple, hein, 200 pages, 90 brefs fragments qui sont rendues puissantes par l'invention d'un langage rare, celui de ces humbles qui sont jetés là, leur capacité à serrer les dents sur la peine et la douleur, leur parole qui est souvent économe, voire rare, sibylline, qui expriment leur vie en agrégeant des légendes urbaines, des bribes poétiques spontanées surgies un peu de nulle part, et la création de leur propre mythe au sein de cette décharge. C'est un vrai petit miracle d'équilibre qui nous donne une magnifique fable, terriblement contemporaine, qui extrait bienveillance, solidarité et poésie à partir d'un matériau glacé de la modernité parmi les plus improbables et les plus mortifères. Je vais vous en lire un petit extrait. C'est ici la langue d'Elisabetta Bucciarelli, rendue en français par Sarah Guimau. À présent, il s'arrête. Tu vois que c'est un chien. Un mâle, facile à désosser. Il suffirait d'un couteau qui coupe bien, ce pour la viande. Un chien côtelette, oreille, cou. Un chien queue effilée, droite. Il arrache quelque chose du sol, il tire dessus comme si c'était un bout de tissu, un chiffon, un jeu. Tu observes plus attentivement. Il continue de tirer sur l'objet, de le lacérer avec ses dents blanches. Il déchiquette, se démène, éclaboussure jaune et museau gras. Tu le vois chien, mais tu le sens homme. Pas tant dans l'apparence que dans ses prédispositions. cette façon qu'il a de chercher sans arrêt, seul et silencieux. Tu t'approches doucement, de sorte qu'il ne t'entende pas, il s'arrête et, sans même avoir bougé les yeux, il t'a déjà perçu. Il a senti ton odeur parmi les odeurs. C'est dans sa nature qu'il ne plie pas, ne succombe pas face aux décombres, aux ruines, aux gravats, aux déchets, aux restes et aux rebuts qui t'entourent. La faim est encore là. Ça n'a servi à rien, ce bout de repas arraché à la terre, à ce tas indistinct. Pas même à remplir un peu ce ventre besace ni à réveiller son odorat. Son instinct lui ordonne de chercher encore de la nourriture. Pas d'aller se mettre à l'abri, ni de trouver un partenaire sexuel.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Alors le troisième ouvrage ce soir est de janvier 2015, chez Rivage. C'était le premier roman d'Alexandre Civico, qui est par ailleurs l'un des membres du collectif Inculte. Et ce premier roman, donc « La terre sous les ongles », propose une plongée absolument incandescente dans la rage et le souvenir d'un fils d'immigré espagnol, le temps d'avaler à toute allure, en respectant les limitations de vitesse néanmoins, les 1800 km de Paris-Cadix, d'une seule traite, au fil de l'autoroute et de la route, des pensées qui sont alimentées en continu par les flashbacks d'une jeunesse malmenée, d'une légende familiale pauvre, broyée, et un trajet rythmé par un encombrant contenu dans le coffre de la berline volée. Défile les portes, les panneaux, tu ne sais pas exactement quel itinéraire tu vas suivre. La route, tu vas la faire au souvenir. La dose d'adrénaline qui a jailli dans tes veines, à les en faire exploser, paraît avoir diminué. Ça cogne moins fort dans ta poitrine. Une sortie t'indique Bordeaux. Tu y trouves ton premier jalon. Jusque-là, le chemin n'a rien de très compliqué. Une fois sur la 10, une vague de soulagement t'envahit. Devant toi, 600 km d'abrutissement. Se laisser glisser sur l'asphalte, dégringoler comme on se laisse tomber d'un monticule en joyeuse galipette. La tension que te procure systématiquement la route s'estompe un peu elle aussi. Scruter la jauge de carburant. Le réservoir est pratiquement plein. Ne pas s'arrêter avant d'avoir besoin d'essence. Quantité de lumière étoile le tableau de bord, elle clignote, s'allume, s'éteigne sans que tu saches pourquoi. Fais confiance à la mécanique allemande. Tu sourirais presque. Allemand solide, italien un peu fiable, c'est ta conception héritée de la voiture. Un acquis. Alors dans ce roman, il y a des échangeurs, des faisceaux de phares, des aires de repos, des stations-service, des lignes frontières qui sont devenues symboliques, mais qui sont autant d'étapes et de signes d'un chemin de croix du souvenir qui est à la fois très intense et étrangement détaché au long de 85 pages dans lesquelles s'égrène toute une vie, une confrontation mémorielle où on trouverait à la fois la simplicité rebelle du François Cavanna d'Hérital et la lucidité très batailleuse, par exemple, d'Olivier Bordassard dans son « Géométrie variable ». Pour nous offrir une aventure donc, de rage, de tendresse et de désarroi. C'est un texte qui se lit d'une traite et qui ne demande pas nécessairement de faire Paris-Cadix pour de bon.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, 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 la. Pero nada pueden bombar, rumba, 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 la. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Que combatimos rumba la rumba la rumba la, pero igual que combatimos rumba la rumba la rumba la, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la.
contraataque es muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Quatrième livre ce soir, Les haïkus de prison de Lutz Bassmann, publié en 2008 chez Verdier. Alors, Lutz Bassmann, c'est l'un des porte-parole en fait, du post-exotisme, hein, donc d'Antoine Volodine. Ce n'est pas Antoine Volodine, hein, Antoine Volodine parle pour lui en public, mais Lutz Bassmann est un auteur à part entière. Alors, le post-exotisme, on pourrait honnêtement passer plusieurs émissions entièrement sur ce texte, sur tout ce que Antoine Volodine et ses... hétéronymes, ont inventé depuis 1985, depuis la biographie comparée de Jorian Mungrave, donc avant même que ça s'appelle le post-exotisme, ce corpus, cet ensemble de textes, donc plus d'une quarantaine, cherche à dire l'emprisonnement, celui qui vient en conséquence d'un délit ou d'un crime et d'une arrestation, mais plus encore l'emprisonnement qui vient d'un échec, d'une défaite face à une domination politico-économique, une domination qui, non contente d'écrire la seule histoire, celle des vainqueurs, c'est précisément ce contre quoi, avec leurs moyens absolument dérisoires, des mines de crayons fatiguées, des ongles défraîchis, les écrivains post-exotiques se dressent avec les restes de leur force physique. Parce que face à ça, ils sont face à un ennemi qui veut s'assurer qu'ils sont réellement hors de combat. C'est cette quête de l'emprisonnement radical, hein, donc, qui va de l'incarcération ordinaire, banale, presque sympathiquement de droit commun, dirait-on, jusqu'aux plus extrêmes conceptions de la haute sécurité, en passant notamment par tous les stades possibles de la torture physique et psychologique. On a bien là un écho anticipé du Giorgio Agamben des moyens sans fin en 1995. On aboutit au motif du camp, le camp militaire, le camp de réfugiés, bien plus sûrement encore le camp d'internement, le camp de travail, le camp de concentration ou le camp d'extermination. Et au moins depuis Des Enfers fabuleux en 1986, avec son implacable mise en scène des racines de la défaite à venir, la matrice de cet emprisonnement n'est absolument pas anodine chez Antoine Volodine, c'est celle qui est soigneusement empruntée à l'adversaire vaincu, celle de son système de soins psychiatriques dévoyés, de rééducation par le travail, d'élimination par le régime sévère, en un mot, celle du goulag stalinien. Alors... depuis l'origine aussi, le post-exotisme traque sans relâche hein, les possibilités de la forme narrative et poétique. Il cherche sous les gravats hein, les traces et les indices d'un passé duquel il n'est plus possible de rendre compte exhaustivement, linéairement, par un roman ordinaire, mais uniquement par fragments, par des pièces disparates d'un puzzle qui est définitivement impossible à reconstituer, mais dont il est absolument vital de transmettre, même à personne, même uniquement entre les incarcérés au sein du QHS, du post-exotisme en dit leçon 11 de 1998, un témoignage. Alors c'est des pages arrachées à des journaux clandestins, des feuilles qui sont désormais volantes de carnets intimes oubliés, des comptes rendus poussiéreux d'interrogatoires qui ont en partie servi d'aliment à des souris, des bribes de confession. Toutes sont des formes courtes de fait, avant que le post-exotisme ne se dote peu à peu d'outils hein, spécifiques, appropriés à la tâche. Et c'est pour ça que Volodine et ses hétéronymes créeront la Chagall, l'entrevoûte, le récita, la leçon, le narra, le murmura. Donc des formes littéraires qui n'existent pas ailleurs que dans le post-exotisme et qui jouent un rôle bien, bien spécifique. C'est donc... d'une logique inexorable que le post-exotisme un jour tente directement, à propos de cellules, de convois et de camps, de s'emparer des haïkus. Les haïkus qui sont une forme pourtant faite prisonnière il y a bien longtemps par l'ennemi, mais un ennemi qui s'est révélé au fil du temps incapable de lui ôter complètement ce que Corinne Atlan et Zeno Bianou, dans leur introduction au poème court japonais d'aujourd'hui, un très beau recueil de 2007, appellent leur pouvoir d'ouvrir une brèche dans la réalité pour en prélever la part la plus juste. Ce que Roland Barthes désignait aussi, lui, dans sa préparation du roman 1979, par l'effet de tilt. Donc, ça nous donne des choses, sous la plume de Lutz Bassmann, telles que les surveillants sifflotent dans le couloir, le moine a entendu dire qu'ils avaient tué un politique. Bien, sous les douches, le mouchard est couché, son sang s'écoule paresseusement, l'enquête s'annonce difficile. Alors, demain partira un convoi, la destination reste imprécise. On voit à quel point ce jeu avec la forme courte donc, que pratique Louis Bassman, qui est pourtant ailleurs dans le post-exotisme la figure centrale du seul texte explicatif, hein, le post-exotisme, on dit leçon 11. Dans les haïkus de prison, le vieux Zec, hein, qui est livré à ce moment-là depuis 18 ans, si l'on en croit les sources trafiquées et abattardies qui caractérisent le genre post-exotique, livré aux vainqueurs triomphants qui ont écrasé l'égalitarisme, a tenté et réussi à exprimer dans la forme la plus ramassée et la plus dense possible toute la réalité, tout l'imaginaire de l'enfermement, de l'horizon définitivement bouché, de la morne et mortifère routine du camp de travail, et il multiplie au fil des mots arrachés et tombés à terre les clins d'œil, bien entendu, notamment au Varlam Chalamov des récits de la Kolyma. La mort de l'indique a été instantanée, un clou dans l'oreille, même pas de cri. L'araignée a changé de cellule, le Kirghiz lui mangeait toutes ses mouches. C'est peut-être dans les haïkus de prison que s'exprime sous la forme la plus synthétique, la plus forte, l'humour du désastre qui caractérise en fait le post-exotisme. C'est un ouvrage évidemment sombre, on parle de cellules, de convois et de camps, et pourtant on rit tout le long en fait, de ces 130 pages quand on entend des choses telles que « l'organisation s'est constituée, désormais quoi qu'il arrive, ce sera chacun pour soi ». Ou bien « le soldat qui fait l'appel a l'air contrarié ». Ça doit être un humaniste.
Grand contrôle. Libre et curieux.
Le cinquième livre s'appelle Paliev. Il est de Philippe Hanoc. Il est paru en 2015 chez Kidam. Ce texte de Philippe Hanoc en 2015, il use presque en secret de presque tout ce que l'auteur a écrit précédemment pour pousser encore plus loin la mise en fiction poétique et déstabilisante hein, du choc entre le conformisme social et l'étrangeté individuelle. Alors, c'est des choses qu'on connaissait chez Philippe Hanoc, avec l'injonction diaphane à obéir et à épouser le sillon prévu de son roman Liquide, le dispositif d'ajustement structurel qui peut se gripper gravement sous ses dehors ludiques, et notamment vidéoludiques, de Vidéoplateau, la logique contourné mais implacable, qui cherche à donner un autre sens au langage dans Monsieur le Comte au pied de la lettre, ou les îles éparses du souvenir qu'il faut sans doute ravauder, mais en est-on bien certain qu'il faut les ravauder dans Mémoire des failles. Philippe Hanoc, ici, a agencé les briques qui entrent dans la composition de ses 130 pages pour pousser dans ses ultimes retranchements le château de Franz Kafka, pour lui faire soigner malignement, et bien au-delà, ce que le château inachevé n'a peut-être pas pu pleinement exprimer. Et ça commence ainsi. C'était en plein milieu des champs, il n'y avait pas de relief, juste quelques bosquets, assez loin. À un angle du carrefour, la croix Saint-Charles était petite, en fer forgé, coulée dans un socle en béton. La peinture blanche, sans doute récente, s'écaillait déjà. En arrêtant son véhicule, le chauffeur du car avait claironné « C'est un arrêt exceptionnel !» Liev l'avait remercié. En regardant la croix, Liev s'était souvenu qu'il avait oublié d'aller aux toilettes avant de sortir du cinéma. Il n'y avait personne en vue, mais il ne pouvait pas faire là. Il a pris sa valise et il s'est engagé sur l'autre route que lui avait indiqué le chauffeur. Alors ce Liev n'est peut-être pas, au fond, vraiment à coup sûr, il n'est sans doute pas un K, mais c'est bien un L. C'est pas un arpenteur, c'est un précepteur, même si les enfants auxquels il s'agirait d'enseigner se dérobent ici à Costco, comme les dimensions à mesurer se cachaient là-bas au village. Magda, la servante, Sonia, la jeune fille de la maison, ne sont ni Frida ni Olga, mais sont pourtant ici aussi les leviers essentiels d'une progression vers un mur final d'escalade qui se dessine peu à peu. Alors en se heurtant un peu douloureusement, ou presque voluptueusement, à un environnement et à un contexte qui lui échappent presque totalement, il va construire pour la lectrice et le lecteur l'expérience intime intérieure de l'étrangeté, de la quête d'un conformisme très volontariste, d'une acceptation, il veut accepter tout ce qui lui arrive, mais il ne comprend rien à ce qui lui arrive, ce qu'il condamne à l'absurde, à l'échec, et peut-être même à l'horreur. C'est l'enjeu central de ce texte. Une fois dissipé l'illusion d'une identité qui tiendrait à une fonction ou à un métier, Liev, qui est d'abord un cartésien de choc, il questionne, il doute en permanence, il écoute ses interlocuteurs, mais il n'écoute pas leurs paroles. Il focalise son attention sur les mauvais détails. Ça l'empêche de saisir le sens autour, donc il rate très fréquemment ce dont il s'agit. Il suppute, il ratiocine énormément, il invente, mais il le fait à contre-temps, à contre-emploi et à contre-circonstances. Et sans même s'en rendre compte, ou en tout cas sans se l'avouer, sans en tirer de conséquences, il se heurte aux murs qui sont pourtant malléables, hein, qui l'entourent, et sans rien perdre jusqu'au bout de sa superbe intérieure, il se fait peu à peu le jouet de sa propre imagination et de volontés qui ne sont pas la sienne. lui assignant des places à occuper à chaque heure du jour et de la nuit, sans qu'une solution de continuité ou une cohérence qui le soulagerait peut-être ne puisse se dégager. Donc c'est une expérience rarissime. Je vais vous donner un extrait qui donne la façon dont Liev vit ce décalage, en fait, sans en être conscient. Magda me dit que vous venez pour la place. Liev s'était levé d'un coup, sa tête tournait un peu, c'était peut-être parce qu'il avait été surpris. Il n'avait pas entendu la porte du fond s'ouvrir. Ou c'était peut-être parce qu'il s'était levé trop brusquement de son fauteuil. En regardant la dame, nettement plus petite que sa voix grave ne le laissait supposer, Liev en a voulu à l'autre femme, cette servante, cette Magda, de l'avoir incitée à s'asseoir dans le fauteuil. Il s'est dit que sans doute elle avait fait ça pour le mettre en difficulté devant sa patronne. Au-dessus d'un chemisier blanc, celle-ci portait ses cheveux blonds parsemés de blanc relevés au-dessus de la tête. Cela évoquait vaguement une sorte d'édredon bien gonflé. C'était difficile de regarder autre chose que cette coiffure. Liev a voulu s'efforcer de baisser les yeux vers le visage de la femme. Celle-ci le toisait froidement. Liev s'est dit qu'elle devait être habituée à regarder en face des personnes plus grandes qu'elle, même si elles lui étaient socialement inférieures. Après tout, Magda était beaucoup plus grande. « Vous n'êtes pas très bavard », a-t-elle constaté, « c'est aussi bien, mais vous pourriez tout de même répondre le minimum. » Et un autre exemple donc de la façon dont travaille l'esprit de Liev, et qui va justifier in fine ce titre de « pas Liev » pour le roman. Le lendemain, une question saugrenue a traversé l'esprit de Liev. Qu'avait-il fait hier ? C'était ça sa question, ça n'avait aucun sens. Il s'en souvenait parfaitement, il avait recopié les factures que M. Hackel lui avait apportées. Il l'avait fait pour rendre service. Pour rendre service à M. Hackel, pour rendre service en général, en attendant. C'était à ce moment-là que Magda était passée devant la fenêtre. Puis il y avait cette jeune femme, à cause de qui Liev avait ouvert la fenêtre. Il n'était pas sûr d'avoir bien fait en ouvrant la fenêtre. C'était un souvenir un peu inconfortable. Voilà ce qu'il avait fait hier. Il ne se souvenait pas d'autre chose. S'il ne s'en souvenait pas, c'est parce que ce n'était pas important.
Grand contrôle.
Grand contrôle.
Libre, libre.
Libre et curieuse.
Voilà. Et pour finir, le sixième et dernier livre ce soir, donc « Six photos noircies » de Jonathan Vable, paru au Tripode en 2013. « Six photos noircies », c'est un texte étonnant, c'est une première publication pour cet auteur français, et qui met en scène deux scientifiques bizarres, enquêteurs de l'étrange, dans un régal de petites nouvelles enchaînées dans tous les endroits en fait, où va les emmener leurs choses. Placé sous un signe du mystère, puisque l'une des phrases clés, en fait, et qui ouvre ce recueil de nouvelles qui forment roman, c'est « On ne sait pas grand-chose des vies de Valente Pacciatore et Tirenzo Perocchiosa ». Alors, je ne peux pas vous raconter, en fait, tout ce qu'il y a dans ces nouvelles, dans ces enquêtes de l'étrange, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on y trouve de l'anthropophagie ordinaire, des écureuils tueurs, des capes enchantées, des restaurants secrets de monstres cannibales, des métamorphoses subites et subies, des parasites géants, des communautés de singes qui prennent subrepticement le contrôle de châteaux isolés, des collectionneurs mystérieux d'yeux arrachés aux vivants, des patients dresseurs de chiens qui sont en vendetta avec des dresseurs d'ours illuminés, des créatures des fleuves qui sont prêtes à saisir le voyageur imprudent, des chanteuses de cabaret qui ne répugnent pas, le cas échéant, aux meurtres en série, et d'étranges sanguinaires poissons amazoniens. Voilà, c'est quelques-unes des choses qu'on peut rencontrer dans ces nouvelles. Donc les deux héros, l'un biologiste et l'autre photographe, l'autre médecin et chercheur, arpentent le monde entier d'une espèce d'entre-deux-guerres dans les années 20, appelés par des confrères, attirés par la rumeur, ou simplement aiguillonnés sur place par leurs propres recherches, que nous ne connaîtrons pas, pour se confronter à l'horreur et au fantastique avec leurs yeux de scientifiques de terrain qui sont très organisés et méthodiquement curieux. Alors, il nous propose, avec ça, Jonathan Vable, un tour de force, hein, une écriture impeccable, qui est tout en retenue, sans effet de manche, dans laquelle il y a à la fois une synthèse de l'essence du fantastique très insidieux à la E.T.A. Hoffmann, de l'horreur constatée très simplement à la guerre Allan Poe, et du positivisme scientiste du type Jules Verne ou Arthur Conan Doyle. Ça nous donne une inquiétante actualisation de l'enquête médicalo-anthropologique sur le bizarre. Par moments, on croirait voir l'ombre imperturbable de Fox Mulder ou de Dana Scully. Surtout, il nous propose un passionnant et subtil jeu littéraire dans lequel énormément de choses sont suggérées, évoquées ou induites, mais assez peu effectivement écrites ou révélées, donc laissant ainsi un gros travail à la charge de l'imagination du lecteur. Et je vais vous donner un extrait savoureux qui donne le sens de cette inquiétude en fait, qui nous parcourt à la lecture des 20 nouvelles. Il trouva l'église sur le bord de l'Adige, bien cachée au milieu d'un groupe d'immeubles, à 100 mètres du pont de Castelvecchio. Il hésita un instant et entra. À l'exception de deux ou trois personnes qui priaient, elle était déserte. Il avança vers l'autel entre deux rangées de bancs et s'assit à l'extrémité de l'un d'eux. L'intérieur était lumineux, dépouillé, les colonnes et les murs simplement rayés de rouge et de blanc. Au bout de quelques instants, il entendit un étrange murmure sur sa droite, qui provenait du confessionnal adossé au mur du bas-côté, longeant la nef. Il voyait dépasser une paire de jambes agenouillées dont la pointe du pied droit tapait de petits coups réguliers contre le sol. Il était trop loin pour entendre ce que disaient ces voix, mais bercé par leur chuchotement très lent, il s'endormit. Dans son rêve, l'église devenait un immense labyrinthe dans lequel il errait. Chaque porte donnait sur de nouvelles salles aux dimensions de plus en plus réduites. Le manque d'espace l'oppressait, il se sentait devenir fou. Les dernières bribes dont il se souvenait étaient les plus terrifiantes. Au son de cloches, de petites araignées grimpaient sur son corps. Il les poussait avec ses mains, mais elles revenaient de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce qu'elles le recouvrent complètement. Donc ces 6 photos noircies de Jonathan Vable, c'est le dernier texte pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on recevra ici même l'artiste-peintre Mathieu Kologan, qui a eu la très bonne idée de nous offrir cet automne un roman graphique magnifique qui s'appelle Manif, et qui est à la fois une célébration de l'art de la manifestation et une sorte d'histoire qui récapitule les 15 dernières années de l'altermondialisme. C'est un ouvrage passionnant, on en parlera la semaine prochaine. En attendant, continuez avec Ground Control.
Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.